Mercredi 30 novembre, il est 16h précise, on a 8 degrés au centre-ville de Victoria. C'est Alexis Gagnon au micro. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Débrief. Une édition aujourd'hui dominée par l'annonce du feu vert donné à la compagnie pétrolière Kinder Morgan pour le triplement de la capacité du pipeline Trans Mountain, un feu vert qui a été accordé par le gouvernement Trudeau hier mardi. On lance tout de suite les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Et on se retrouve dans un peu moins de 5 minutes. On enchaînera ensuite avec la météo détaillée, le radiojournal des Nations Unies. Et c'est peu après 16h15 environ qu'on s'attaque de front au sujet Trans Mountain. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. On connaît maintenant l'identité du pilote qui a perdu la vie dans l'écrasement du CF-18 en Alberta lundi. La Défense nationale a annoncé qu'il s'agit du capitaine Thomas McQueen de Hamilton en Ontario. L'appareil s'est écrasé sur un pylogone de tir aérien de Cold Lake en Saskatchewan. Le colonel Paul Doyle, commandant de la 4e escadre de la base de Cold Lake, a dit que tout le soutien et tout le réconfort seront offerts à la famille du pilote. Une enquête de sécurité des vols sera menée pour déterminer la cause de l'accident. Une table ronde composée de dirigeants syndicaux a été le théâtre de discussions avec des membres haut placés du cabinet fédéral. Le but était d'échanger sur les possibilités de créer un plus grand nombre d'emplois de qualité au pays. Jerry Diaz, président d'Unifor, a présidé la rencontre. Il a dit que la rencontre a montré ce qui est possible de faire lorsqu'il y a un travail d'équipe. La table ronde a abordé des moyens d'améliorer les données sur le marché du travail et d'améliorer la coordination intergouvernementale. Le lieutenant-général Christine Whitecross assumera dorénavant le commandement du Collège de défense de l'OTAN à Rome. Elle prend la relève du major-général Janusz Bożarski de l'aviation polonaise. Le gouvernement canadien a indiqué que cette nomination à ce poste de premier plan de l'OTAN représente une importante réussite pour le Canada. Le collège est reconnu pour la formation d'officiers supérieurs des 28 nations alliées de l'OTAN. Christine Whitecross est la 3e Canadienne et la première femme à assumer le commandement dans son histoire de 65 ans. Joe Biden sera en visite au Canada les 8 et 9 décembre prochains. Il rencontrera les premiers ministres provinciaux à Ottawa dans le cadre de la rencontre fédérale provinciale. L'ambassadeur américain au Canada, Bruce Amon, a précisé dans un communiqué que le vice-président Biden discutera du partenariat fort entre le Canada et les États-Unis. Il discutera aussi d'enjeux bilatéraux et mondiaux. Justin Trudeau a dit dans un communiqué qu'il se réjouit de rencontrer le vice-président Biden et de discuter avec lui de la solidité des relations canado-américaines. Les commentaires ont été nombreux au cours des dernières heures suite à la publication du rapport de l'automne 2016 du vérificateur général du Canada. Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a dit accueillir notamment les recommandations des rapports sur le plan d'action par-delà la frontière. Le ministre a souligné qu'Ottawa va renforcer l'évaluation des frontières et va poursuivre la modernisation de la gestion des frontières avec les États-Unis. Pour sa part, la ministre des Affaires autochtones et du Nord, Caroline Bennett, a accueilli favorablement le rapport sur les revendications particulières. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, et le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, John McCollum, feront une annonce aujourd'hui dans le sud ontarien. L'annonce visera la stratégie du gouvernement du Canada pour stimuler la croissance économique en facilitant le recrutement des personnes talentueuses à l'échelle mondiale. Un point de presse suivra le dévoilement. Ottawa, les provinces et les territoires travaillent en ce moment sur le cadre stratégique pour l'agriculture. Le gouvernement Trudeau s'est tourné vers la population au cours des dernières semaines pour l'aider à orienter les politiques et programmes futurs. Il est à noter que les consultations en ligne prennent fin aujourd'hui. Les gens peuvent se prononcer sur la déclaration de Calgary pour le prochain cadre stratégique. Congrès touristique annuel de l'Association de l'industrie touristique du Canada, eh bien des acteurs du secteur et des élus se sont réunis dans la région d'Ottawa pour faire le point sur la dernière année. Selon eux, les derniers mois ont été positifs. Bardish Jagger, ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, a dit pour sa part que le secteur du tourisme met en valeur l'image de marque du Canada et crée des emplois. Au sport, au hockey, Ligue nationale, victoire de Buffalo 5-4 contre Ottawa, Winnipeg 3, le New Jersey 2. Vancouver a eu raison du Minnesota 5-4, Toronto a doublé Edmonton 4-2 et gain d'Anaheim contre le Canadien 2-1. Ce soir, Toronto sera à Calgary, Pittsburgh à New York contre les Islanders et San Jose à Los Angeles. NBA ce soir, les Raptors recevront Memphis. Et au baseball, selon John Heyman de FanRagSports.com, les Blue Jays étudient l'idée d'acquérir les voltigeurs Dexter Fowler des Cubs de Chicago et Jay Bruce des Mets de New York.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Bienvenue dans le débrief. 16h05 à Victoria. On va se tourner vers la météo. On a actuellement 9 degrés au centre-ville. On a eu quelques brins de pluie, de petites averses en cours de journée. C'est dégagé pour les prochaines heures. Le mercure va descendre à 2 degrés en fin de soirée, en cours de nuit. Demain, jeudi 1er décembre, 9 degrés encore une fois avec des nuages et 30% de probabilité d'averse. Ce sera ensuite 10 degrés vendredi 2 décembre, toujours nuageux avec de la pluie en cours de journée. Et pour le week-end, pour les samedis 3 et dimanche 4 décembre, c'est respectivement 9 degrés et 7 degrés en cours de journée avec des averses, de la pluie intermittente. Et Environnement Canada prédit un dégagement pour lundi 5 décembre et ça semble être dégagé également à l'horizon du 6 décembre. Mardi prochain. On va tout de suite se rendre au bulletin quotidien des Nations Unies qui nous parvient tous les jours de New York. On se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles provinciales.
Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies. Avec en titre, le Conseil de sécurité durcit le régime de sanctions contre la Corée du Nord et fait par ailleurs le point sur la situation en Syrie. Le chef des droits de l'homme préoccupé par le recensement des fonctionnaires au Burundi, les autorités de la RDC appelées à respecter le droit de manifester et en dossier la population de Mossoul face au manque d'eau potable. Le Conseil de sécurité a adopté ce matin à l'unanimité une résolution qui durcit de manière notable le régime de sanctions imposé à la République populaire démocratique de Corée. L'adoption de la résolution 23-21 survient près de 3 mois après l'essai nucléaire du 9 septembre, un laps de temps qui, selon le secrétaire général, illustre la complexité du défi à surmonter. Depuis le mois de janvier, la RPDC a mené 2 essais nucléaires et a utilisé à au moins 25 reprises la technologie à missiles balistique. Et le pays a mené 5 essais nucléaires à ce jour. On écoute Ban Ki-moon.
Nous devons supposer qu'avec chaque essai ou lancement, la RPDC continue de faire des avancées technologiques dans sa quête d'une capacité nucléaire militaire. L'augmentation et la nature de ses activités constituent une menace toujours plus grande pour la sécurité régionale et le régime mondial de non-prolifération. La résolution d'aujourd'hui comprend le régime de sanctions le plus sévère et le plus complet jamais imposé par le Conseil de sécurité. Il envoie un message sans équivoque selon lequel la RPDC doit cesser d'autres actes de provocation et se conformer pleinement à ses obligations internationales. La RPDC doit emprunter le chemin inverse et se placer sur la voie de la dénucléarisation par la voie d'un dialogue sincère. Je réitère mon appel à la RPDC de prendre les mesures nécessaires pour atténuer les tensions dans la région.
Le Conseil de sécurité a ensuite fait le point sur l'évolution de la situation en Syrie, à commencer par l'intensification des combats à Alep-Est. Devant les 15, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires a indiqué qu'une frappe aérienne avait fait des dizaines de morts ce matin même et que 25 000 personnes avaient fui Alep-Est depuis samedi, chiffres qui sont voués à augmenter dans les heures à venir. Sans compter les dangers liés aux tentatives de traverser des lignes de front actives, des rapports crédibles indiquent que des groupes de l'opposition empêchent les civils de prendre la fuite. Le point avec Christina Silvero.
Devant les 15, le coordonnateur des secours d'urgence a indiqué que des convois d'aide humanitaire de l'ONU, positionnés en Turquie et à Alep-Ouest, sont prêts à livrer une assistance immédiate. Stephen O'Brien s'est toutefois dit profondément préoccupé par le sort des civils qui demeurent dans les zones assiégées d'Alep-Est et qui n'ont pas les moyens de résister encore longtemps. Il a appelé les parties à réellement protéger la vie des civils, à assurer l'acheminement rapide et sans entrave de l'aide et à mettre un terme aux situations de siège. Des demandes qui, selon lui, ne sont ni nouvelles ni compliquées et qui sont issues du tissu commun de notre humanité. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a pour sa part déploré que la logique militaire prévale de toutes parts au détriment d'une solution politique, sans compter le lourd tribut payé par les civils. Staffan de Mistura qui a à nouveau appelé la communauté internationale à accepter le départ des combattants d'Al-Nusra des quartiers d'Alep Est, ce qui permettrait de séparer les terroristes des autres groupes armés et de sauver la vie de civils.
La situation à Alep figurait aussi parmi les préoccupations soulevées par le haut-commissaire aux droits de l'homme lors d'un dialogue informel organisé mercredi à Genève avec le Conseil des droits de l'homme. Zaïd Rad al-Hussein s'est aussi attardé sur la situation au Burundi, s'inquiétant notamment de la volonté des autorités burundaises de procéder à un recensement ethnique des fonctionnaires civils. Le point avec Alpha Diallo.
Sur le Burundi, le haut-commissaire Zaïd a indiqué que les pires scénarios se profilent à l'horizon. Il a ainsi critiqué le durcissement du gouvernement burundais et s'est surtout préoccupé du projet de questionnaire de la fonction publique publié le 8 novembre dernier et demandant aux fonctionnaires d'indiquer leur appartenance ethnique. Le chef des droits de l'homme parle d'un recensement dangereux. Sur le plan humanitaire, plus de 50 000 réfugiés supplémentaires ont été décomptés ces derniers mois. Depuis le début des violences liées au processus électoral et la réélection du président Kourou, 325 000 personnes ont quitté le Burundi. Alpha Diallo, Genève, pour la Radio des Nations Unies.
Toujours à Genève, le sous-secrétaire général aux droits de l'homme a appelé au respect des libertés fondamentales et au droit de manifester en République démocratique du Congo. De retour d'une visite dans le pays le week-end dernier, Andrew Gilmore s'est inquiété de la restriction de l'espace politique à Kinshasa et dans plusieurs provinces congolaises et a estimé que l'argument sécuritaire avancé par les autorités ne justifie pas une telle restriction des droits fondamentaux. On l'écoute.
J'étais assez alarmé par la tendance de plusieurs membres du gouvernement de la RDC qui dénigrent et délégitimisent les organisations civiles, l'opposition et tous les manifestants. Ils accusent la présence onusienne d'être le porte-parole de l'opposition et des ONG. Ils accusent l'opposition et défense des droits de l'homme d'être à la solde de puissances étrangères. Tout appui clair en faveur des droits de l'homme ou des partis de l'opposition est considéré d'une manière ou d'une autre comme illégitime. Dans le cadre de nos débats, ils ont constamment qualifié les manifestants de drogués, de violeurs, de voleurs. J'ai bien expliqué que je n'acceptais pas de tels termes, ni que l'ONU ne soit à la solde des puissances étrangères, ni que ces manifestants soient tous des criminels.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
À Mossoul, en Irak, l'un des trois pipelines d'eau de la ville a été endommagé par les combats et près de la moitié des enfants se retrouvent désormais coupés d'accès à l'eau potable. La situation est d'autant plus compliquée que cette partie de la ville est sous le contrôle de l'État islamique, ce qui complique la possibilité d'acheminer de l'aide. Pour en savoir plus, Christina Silvero a joint Bastien Vigneault. Il est coordonnateur d'urgence pour UNICEF sur place en Irak.
La situation, en effet, est assez grave. Nous avons rapport maintenant des autorités qu'une des lignes d'accès souterraine, pipeline d'eau de la ville, il y en a trois dans la ville principale pour alimenter à peu près 1,5 million de gens, a été très endommagée par les combats. Et cela, selon les estimations avec les autorités, ça pourrait mettre à peu près 500 000 personnes, donc la moitié d'un million de personnes sans accès à l'eau et donc 250 000 enfants. Donc c'est extrêmement, extrêmement préoccupant.
Alors cette ligne d'accès souterraine se trouve dans la zone qui est toujours sous l'emprise de Daesh. Alors comment va-t-il être possible de la réparer? Qu'est-ce que cela veut dire au niveau de la possibilité de distribuer de l'eau?
Alors oui, tout à fait, ça se situe sur l'Est, mais c'est toujours une partie qui est occupée aux mains de ISIL. Et pour y accéder, c'est quasiment impossible. C'est bien pour ça que nous sommes très préoccupés, parce que si cette situation perdure, les enfants, les gens vont pas avoir accès à une eau potable digne de ce nom, et nous risquons évidemment toutes les épidémies possibles, qui seraient ensuite extrêmement difficilement contrôlables. Et évidemment, on est tout à fait conscient que les enfants dans cet état assiégé par le groupe ISIS n'ont pas du tout accès aux soins, voire la nourriture appropriée pour faire face à cette éventualité.
Alors, quelle est la réponse d'UNICEF et des autorités irakiennes ?
En ce moment, il y a un pompage de l'eau qui est acheminé par les camions. Depuis ces deux dernières semaines, un certain nombre de quartiers de la ville est de Mossoul a été repris par les forces de la coalition. Et donc là, les Nations Unies, avec leurs partenaires, on est capable de regarder les stations d'épuration, les stations de pompage d'eau, de faire un diagnostic rapide et d'essayer de changer les pompes, apporter un générateur. Et comme il y a pas mal de casses au niveau des infrastructures, nous donnons des tablettes de purification tout simplement qui permettent aux familles de pouvoir purifier l'eau. De l'autre côté, qui est toujours aux mains d'ISIL, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué pour faire arriver une quelconque aide.
Vous n'avez donc pas la possibilité d'envoyer ou de faire parvenir ces tablettes de chloration ou de purification d'eau dans les zones qui sont contrôlées par ISIL?
À l'heure actuelle, c'est extrêmement compliqué, mais on essaye de trouver des solutions. On espère au moins pouvoir atteindre ce pipeline d'eau afin de le réparer et de remettre en marche le système d'approvisionnement d'un tiers de la ville.
Vous êtes vous-même basé à Erbil, mais est-ce que vous pouvez nous décrire le quotidien d'un enfant qui habite à Mossoul en ce moment ?
Alors, le quotidien d'un enfant qui habite à Mossoul, j'ai bien peur qu'il soit extrêmement négatif. Je le base sur le fait que je suis 80% du temps en mission, soit dans les camps qui accueillent les déplacés, soit dans ces endroits qui sont repris. Et là, évidemment, on rencontre des enfants qui, bon, parfois sont un petit peu effarés, souvent contents de nous voir, mais ils ont passé quand même 2 ans et demi, voire plus, sans avoir vraiment accès à une quelconque éducation, ou sinon extrêmement, on va dire, déviante de leur éducation normale. Souvent ont été enfermés chez eux parce que les parents qui veulent les protéger, pas du tout accès à des soins. Donc évidemment, je dirais la casse psychologique, c'est un grand nombre d'entre eux qui ont vu des choses absolument horribles, innommables, qu'un enfant ne devrait jamais voir. Avec UNICEF, on essaye d'apporter les premiers soins de secours psychologiques dédiés à l'enfance, mais évidemment, ça prendra du temps. Mais le fait de se retrouver, quand on les voit, ils jouent ensemble, ils chantent, ils font des dessins, ils retrouvent un semblant de normalité, déjà, c'est 50% de gagné.
Et c'est avec Bastien Vigneault que se referme ce journal de la radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité, on se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Voilà des nouvelles de notre monde dans le radio-journal des Nations Unies. On se tourne maintenant vers les nouvelles provinciales de Colombie-Britannique. Je vous le disais en ouverture d'émission, cette édition du débrief est fortement colorée par la décision du gouvernement Trudeau d'approuver le triplement de la capacité de l'oléoduc Trans Mountain de la compagnie pétrolière Kinder Morgan. Alors on va porter notre regard tout d'abord sur la presse internationale dans le journal Libération sur le portail libération.fr, on a cette manchette: Canada, Trudeau rompt avec les autochtones et les environnementalistes. Le premier ministre canadien s'est aliéné une partie de la population en autorisant 2 projets de pipeline en Colombie-Britannique. Dans la province de l'extrême-ouest canadien, la résistance commence à s'organiser. Mardi, le premier ministre fédéral Justin Trudeau a autorisé le triplement du pipeline Trans Mountain et le prolongement de la canalisation 3 d'Enbridge en Colombie-Britannique. Ces deux projets, la canalisation 3, c'est un pipeline qui court entre l'Alberta et le lac supérieur, donc il ne passe pas dans la Colombie-Britannique. Ces deux projets, poursuit l'article de Libération, permettraient le transport de 960 000 barils de pétrole de plus par jour, en grande partie à destination de l'Asie et des États-Unis. Si certains voient dans cette décision fédérale une opportunité économique et de créer des emplois, beaucoup la considèrent comme un danger majeur pour l'environnement et la santé publique. De toute évidence, les voies ensoleillées de Justin Trudeau annoncent des jours sombres pour l'action climatique et la réconciliation avec les autochtones du Canada, a commenté Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada. Si le premier ministre Trudeau voulait voir des manifestations semblables à celles de Standing Rock dans le Dakota du Nord aux États-Unis, où plusieurs milliers de personnes militent contre la construction d'un pipeline actuellement. Donc s'il voulait voir des manifestations semblables arriver au Canada, il a réussi, selon Patrick Bonin de Greenpeace Canada. De son côté, l'activiste et écrivaine Naomi Klein, une militante environnementaliste connue mondialement, une égérie de la gauche mondiale, elle a interpellé sarcastiquement, indique cet article du portail Libération, le premier ministre Trudeau. Deux nouveaux pipelines pour le pétrole des sables bitumineux, un énorme terminal de gaz naturel liquéfié, des tests sismiques dans l'Arctique pour l'exploitation pétrolière et gazière. Que demander de plus à un leader mondial du climat? Voilà, c'est le tweet qu'a envoyé hier Naomi Klein au premier ministre Justin Trudeau. D'ailleurs, ce tweet, en date d'aujourd'hui, en fin d'après-midi, avait été retweeté, comme on dit, plus de 1300 fois. Donc, cet article se poursuit ainsi. Justin Trudeau s'est en effet présenté à plusieurs reprises comme un champion de la lutte contre le réchauffement climatique, comme dans son discours acclamé à la COP21 à Paris en décembre 2015, où il avait proclamé que la science est incontestable et qu'elle nous dit que les changements climatiques ont commencé à toucher notre planète et auront de profondes répercussions sur son avenir. Du côté de Radio-Canada, toujours à propos de l'approbation de Trans Mountain, Radio-Canada écrit en manchette « Onde de choc et déception en Colombie-Britannique ». Il n'aura fallu que quelques minutes, écrit la journaliste Anne Diandra Louarn dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Il n'aura fallu que quelques minutes pour qu'une avalanche de réactions à l'approbation du pipeline Trans Mountain de Kinder Morgan déferle sur le web, à commencer par les défenseurs de l'environnement et les Premières Nations locales qui partagent déception, inquiétude et appellent à la mobilisation des Britanno-Colombiens contre cette décision du gouvernement Trudeau. Justin Trudeau, vous m'avez regardé droit dans les yeux et m'avez menti. Vous avez menti aux Britanno-Colombiens. Vous pouvez désormais arrêter d'appeler Vancouver votre chez-vous. Ça, c'est un tweet signé par Kai Nagata. Il est directeur de l'organisme Dogwood Initiative. Donc, Kai Nagata qui ne mâche pas ses mots et rappelle à Justin Trudeau les propos qu'il avait tenus ici même dans la région à Esquimalt lors d'un meeting politique de la campagne électorale de 2015. D'ailleurs, M. Trudeau avait été filmé en train de déclarer à cet activiste, Kai Nagata, qu'il avait l'intention de revoir au complet le processus d'approbation des pipelines et avait aussi mentionné que son gouvernement allait déployer une stratégie nationale de l'énergie, ce qui n'a pas été fait. Donc, Kai Nagata qui est très amer aujourd'hui suite à cette décision du premier ministre Justin Trudeau d'approuver le pipeline Kinder Morgan dans sa version augmentée. Il y a bien sûr d'autres tweets qui sont cités dans cet article. On va aller au paragraphe qui concerne la première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark. Rappelons que Christy Clark, officiellement du moins, est très sceptique face au projet Trans Mountain. Son gouvernement a posé 5 conditions qui devront être remplies par la compagnie Kinder Morgan. Alors, ces conditions sont toujours valables au jour d'aujourd'hui. On peut les citer, donc études environnementales concluantes en faveur, plan de prévention et d'intervention, et plan spécifiquement en cas de déversement maritime, plan de prévention et d'intervention en cas de déversement terrestre, une obligation de consulter les Premières Nations, notamment sur les occasions économiques apportées par l'expansion de ce pipeline, et condition numéro 5, l'obligation d'énoncer clairement quelles seront les retombées économiques pour la Colombie-Britannique. Il semble que la Colombie-Britannique est à supporter bien des risques dans cette affaire, mais peu de bénéfices. Voilà, donc la province qui demeure officiellement très sceptique et opposée au pipeline Kinder Morgan Trans Mountain dans sa version augmentée à triple de la capacité actuelle. Autrement, cette même première ministre Christy Clark, dans la journée d'hier, a invité Justin Trudeau à venir expliquer en personne aux Britanno-Colombiens les raisons de son approbation du pipeline controversé Trans Mountain. Vous trouverez cette nouvelle dans le portail de Radio-Canada et c'est un petit peu partout dans les médias de la province aujourd'hui. Autrement, dans la presse canadienne, on rapporte que les libéraux fédéraux élus en Colombie-Britannique sont dans une position particulièrement précaire au lendemain de cette décision du gouvernement Trudeau. On sait en effet que le gouvernement Trudeau a pu obtenir 17 circonscriptions 17 circonscriptions dans la province de Colombie-Britannique lors des élections d'octobre 2015. Pourquoi? En grande partie parce que le parti s'opposait au triplement de la capacité du pipeline Trans Mountain. Donc, c'est une promesse brisée. C'est aussi simple que cela. Donc, les députés libéraux qui se sont fait élire l'année dernière sont dans une position assez délicate actuellement et ils ont maintenu une façade de cohésion et de solidarité avec le parti hier et aujourd'hui, mais ça semble assez fragile. Il y a notamment l'élu Eddie Fry qui est dans la circonscription de Vancouver Centre qui a indiqué aux journalistes de CBC qu'elle était déçue de cette décision mais qu'elle se ralliait derrière l'équipe libérale, donc le cabinet Trudeau. Autrement, dans un autre article de la presse canadienne, celui-là signé par Dominique Lahaye, on peut lire le passage suivant. Tout en se rangeant derrière la décision du gouvernement, des députés libéraux fédéraux de la Colombie-Britannique n'ont pas caché leur déception mercredi matin à l'entrée de la réunion hebdomadaire du caucus libéral. Ces députés reconnaissent que la bénédiction du fédéral à ces projets fait bien des mécontents parmi leurs électeurs. La députée de Vancouver Quadra, Joyce Murray, dit avoir tenté de dissuader le gouvernement d'approuver ses projets. Elle dit se conforter maintenant dans le fait qu'Ottawa a rattaché plusieurs conditions contraignantes à sa décision. Dès l'annonce de la décision, des petites manifestations se sont déclarées du côté de Vancouver, mais aussi du côté de Montréal, où se situe le comté du premier ministre. Justin Trudeau est élu dans la circonscription de Papineau sur l'île de Montréal. Une centaine de personnes ont manifesté devant son bureau de comté aujourd'hui 30 novembre, c'est rapporté par la presse canadienne. Autrement, on peut signaler que la première ministre de l'Alberta, donc la province productrice de pétrole par excellence, Rachel Notley, a indiqué qu'elle était prête à tenir des discussions difficiles à propos des oléoducs dans les semaines et les mois à venir. Elle est bien consciente que l'opposition de la population civile, de la société civile, est très marquée et très forte concernant ces différents projets d'oléoduc. Autrement, si vous voulez des réactions favorables, des réactions heureuses à cette annonce du triplement de la capacité de Trans Mountain, vous pouvez vous rendre sur le portail de CBC, où l'on rapporte que le maire de Cache Creek, ça c'est dans l'intérieur de la Colombie-Britannique, il y a des heureux effectivement suite à cette annonce du triplement de la capacité de Trans Mountain. Le maire de Cache Creek s'est félicité de cette annonce. Il applaudit la décision du gouvernement Trudeau. Je vous lis la manchette. Trans Mountain approval has Cache Creek mayor quite pleased. Donc le maire John Renta est très heureux de cette décision, c'est rapporté par le portail de la CBC. Et je passe rapidement sur d'autres nouvelles. On rapporte sur le portail de Radio-Canada qu'une première dose mortelle au carfentanil, ce puissant opioïde qui est encore plus mortel que le fentanyl, une première surdose mortelle donc a été constatée sur Vancouver cette semaine, c'est rapporté sur le portail de Radio-Canada aujourd'hui. On apprend du côté anglophone de Radio-Canada, donc sur le portail de CBC, que une demande d'accès à l'information a permis de prouver que la province de Colombie-Britannique a alloué 10 fois plus de fonds public dans le combat contre le virus H1N1 que dans la lutte aux surdoses mortelles par opioïdes. Donc un très grand déséquilibre entre les deux engagements de la part de la province. Le H1N1 a fait l'objet d'une campagne beaucoup mieux dotée en fonds publics que celle visant à lutter contre les surdoses aux opioïdes. Donc c'est 80 millions de dollars en 2009 qui avaient été versés par la province de Colombie-Britannique pour lutter contre le virus du H1N1, une pandémie qui avait causé bien des remous et des inquiétudes partout sur la planète. Donc 80 millions. Et pour ce qui est de la lutte aux surdoses mortelles aux opioïdes dans la province, on déplore déjà plus de 620 cas de décès par surdose cette année. Ce nombre est probablement plus élevé en date du 30 novembre. C'est le chiffre le plus récent. En tout cas, c'est un triste record. La province n'a alloué que 5,7 millions de dollars pour lutter contre cette tragédie qui continue de s'abattre sur la province. Voilà, donc un déséquilibre très important entre ces deux dossiers. C'est signalé sur le portail de CBC. Je vous donne le titre: BC allocated 10 times more to fight swine flu than fentanyl crisis. On s'arrête quelques instants pour faire une pause musicale. On entend une formation qui s'appelle Christmas Collective et la pièce de Noël s'intitule I'll Be Home for Christmas. Vous allez la reconnaître tout de suite. On se retrouve dans quelques minutes avec les nouvelles du jour. La formation Christmas Collective dans l'émission Le Débrief à 16h33. Merci de nous écouter dans la matinée du 1er décembre en rediffusion. C'est le moment de passer aux nouvelles du jour. On reste dans le secteur de l'énergie. La nouvelle de l'approbation du triplement de la capacité du pipeline Trans Mountain a entraîné des réactions un peu partout au pays, y compris dans l'Est, où d'autres projets de pipeline sont en préparation. Le maire de Montréal, Denis Coderre, a réagi et a établi des parallèles avec le projet de TransCanada, un projet de pipeline qui doit rejoindre la côte est du pays en passant par le sud du Québec. Donc le projet TransCanada qui porte le nom Énergie Est. Le titre de cet article de la presse canadienne, je vous le donne tout de suite. Denis Coderre croit que les deux oléoducs approuvés hier par Justin Trudeau rendent le projet Énergie Est de TransCanada inutile. Le maire de Montréal, Denis Coderre, estime que le projet d'oléoduc Énergie Est a perdu toute pertinence après la décision du gouvernement Trudeau mardi de donner le feu vert à deux autres pipelines dans l'ouest du pays. Selon le maire de Montréal, le fait d'avoir trouvé deux voies de passage pour le pétrole albertain, l'une vers la côte ouest via Vancouver avec le pipeline Kinder Morgan et l'autre vers les États-Unis à partir de l'Alberta vers le Wisconsin, avec la ligne 3 d'Enbridge, comme on l'appelle, ne fait qu'ajouter un argument de plus contre le projet de la société TransCanada qu'on appelle Énergie Est. Donc, en substance, en deux mots, Denis Coderre estime que TransCanada Énergie Est est maintenant inutile puisque on a deux voies d'accès désormais pour le pipeline albertain, l'un qui se rend sur la côte ouest, sur l'océan Pacifique, et l'autre qui se rend dans le Wisconsin, à l'extrémité ouest du lac Supérieur. Je poursuis dans cet article de la presse canadienne signé Pierre Saint-Arnaud. Denis Coderre rappelle que les 82 municipalités membres de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, sont opposés au projet Énergie Est de TransCanada, tout comme l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et les leaders autochtones sur l'ensemble des territoires concernés, donc l'ensemble des territoires que traverserait ce pipeline s'il devait être construit. Denis Coderre se dit tout à fait solidaire du maire de Vancouver, Gregor Robertson, de qui il s'attend de voir émerger une contestation judiciaire probablement aux côtés des communautés autochtones qui s'opposent également au projet Kinder Morgan Trans Mountain. Vous vous rappelez, si vous étiez à l'écoute dans l'émission d'hier, on a fait passer l'intégralité de la déclaration de Gregor Robertson qui a exprimé sa vive déception suite à l'annonce du gouvernement Trudeau. Donc, Denis Coderre, ici, dans cet article, se déclare solidaire du maire de Vancouver. Constatant que le premier ministre Justin Trudeau n'a pas hésité à passer outre la contestation de la ville de Vancouver, Denis Coderre entend mobiliser les forces municipales, les groupes environnementaux et les communautés autochtones afin de faire valoir que le projet de TransCanada, appelé Énergie Est, n'a pas l'acceptabilité sociale requise et va à l'encontre de la transition énergétique dans laquelle s'est engagé le pays ainsi que le Québec. Sinon, rapidement dans ce bloc nouvelle du jour, on revient sur ce cas de juge albertain qui a fait un gros dérapage dernièrement. Je vous lis le titre de cet article paru dans la presse canadienne. Serrer les genoux, la magistrature recommande la révocation du juge Robin Camp. Vous allez comprendre, je vous lis quelques lignes de cet article. Un comité d'enquête du Conseil canadien de la magistrature recommande de révoquer le juge de Calgary qui avait demandé à une victime présumée d'agression sexuelle pourquoi elle n'avait pas serré davantage les genoux lors de l'agression. Le comité du Conseil canadien de la magistrature qui a étudié la plainte a conclu que la conduite du juge Robin Camp a porté si manifestement et si totalement atteinte aux notions d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance de la justice qu'elle ébranle suffisamment la confiance de la population pour le rendre incapable de s'acquitter des fonctions de sa charge. Alors c'est assez extraordinaire de voir des décisions aussi aussi clair et lapidaire de la part du Conseil canadien de la magistrature. Je poursuis dans la lecture de cet article. Le juge Robin Camp, nommé plus tard à la Cour fédérale, a présenté ses excuses, avait présenté ses excuses pour son comportement brusque et insultant face à la plaignante de 19 ans lors du procès en cour provinciale de l'Alberta en 2014 à Calgary. La transcription des procédures révèle que le juge Robin Camp s'est plusieurs fois adressé à la présumée victime d'agression sexuelle en l'appelant l'accusée. Il lui a aussi demandé pourquoi elle n'avait pas su garder les genoux bien serrés durant le viol présumé, et il a également déclaré que le sexe et la douleur font parfois bon ménage. Alors, une déclaration vraiment très bizarre de la part de ce juge. Le juge avait d'ailleurs acquitté l'accusé, un certain Alexander Vagar, et ce verdict avait par la suite été infirmé par la Cour d'appel qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Le Conseil canadien de la magistrature va maintenant examiner le rapport du comité d'enquête après avoir donné au juge Robin Camp l'occasion de présenter des observations écrites. Le Conseil formulera ensuite sa recommandation à la ministre fédérale de la Justice. Donc voilà les dernières nouvelles à propos de la révocation de ce juge qui est recommandé par le Conseil canadien de la magistrature. Autrement, je vous signale rapidement que l'Office national de l'énergie, qu'on appelle en anglais le National Energy Board, alors c'est l'office qui avait approuvé au printemps dernier le fameux pipeline Trans Mountain, donc l'office a un nouveau président. On l'a appris aujourd'hui, l'Office national de l'énergie vient de désigner David Hamilton comme président par intérim pour le projet de pipeline Énergie Est. C'est donc David Hamilton qui présidait le comité qui avait recommandé au gouvernement fédéral d'approuver Trans Mountain. Donc, il est passé d'un projet à l'autre. La journaliste de Radio-Canada, Geneviève Normand, a pour sa part écrit sur Twitter aujourd'hui que le ministre des Ressources naturelles, Jim Carr, avait déclaré que 3 nouveaux membres temporaires seront nommés d'ici quelques semaines à l'Office national de l'énergie pour travailler avec ce nouveau président, David Hamilton. Donc, c'est une affaire à suivre. L'office qui continue de travailler sur différents projets d'oléoduc. Et finalement, dans ce bloc nouvelle du jour, on revient sur la francophonie. Vous savez, le 16e sommet de la francophonie s'est clos il y a quelques jours dans la capitale de Madagascar. Et le portail Infomédia Afrique nous signale que c'est en Tunisie qu'aura lieu la conférence de 2020. Et pour ce qui est de la conférence de 2018, puisque c'est à tous les 2 ans, ce sera en Arménie. Donc, on connaît maintenant les destinations des 2 prochains sommets. Les autres seront dans l'ordre, donc l'Arménie en 2018 et la Tunisie en 2020. Alors, c'est rapporté également sur le site de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. On fait une petite pause musicale. Je vous propose d'entendre la formation Aqua Serge. La pièce s'intitule « Autour du monde ». À tout de suite. We'll be right back. vous venez de vous joindre à nous, vous êtes dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Il est 16h45. On a 9 degrés au centre-ville de Victoria actuellement. Ça descend à 2 degrés en soirée, un petit peu plus tard, dans quelques heures. Et la pluie nous laisse un petit peu de répit dans les prochaines heures, mais ça recommence demain dans la journée du 1er décembre. On va passer à la revue de presse des éditoriaux, si vous le voulez bien. On va parcourir les textes qui ont été retenus pour vous aujourd'hui dans les différents médias francophones de la toile, de l'Internet. On commence par un papier qui paraît dans le portail de l'Acadie Nouvelle. L'Acadie Nouvelle, c'est un journal francophone hors Québec, situé au Nouveau-Brunswick. C'est l'un des plus dynamiques de la francophonie hors Québec au Canada. Le texte en question est signé par Jean-Pierre Dubé. Ça s'intitule « Immigration francophone. Si c'est un échec au Québec, que faire en milieu minoritaire hors Québec ?» Point d'interrogation. Et Jean-Pierre Dubé donc s'interroge sur les succès mitigés de l'immigration francophone donc venue d'autres pays francophones dans le monde, que ce soit en Europe, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Donc il s'interroge sur les succès et les insuccès de cette immigration dans les provinces du Canada. Alors il écrit « On fait moins d'enfants chez les francophones et seulement 1 sur 2 se rend à l'école francophone. La petite enfance abandonnée, on a donc misé sur l'immigration. Quels sont les résultats? Quels sont les résultats? Demande Jean-Pierre Dubé. Ottawa s'est engagé à livrer hors Québec 4,4% des arrivants francophones, mais depuis 10 ans, le taux stagne à 1,5%. Et les deux tiers des immigrants s'évanouissent dans les grandes villes anglophones comme Toronto, Calgary et Vancouver. Jean-Pierre Dubé continue. En milieu minoritaire francophone, Ottawa aura consacré 60 millions de dollars sur 2 feuilles de route pour favoriser l'immigration francophone. Les nombres ont grimpé de 38 000 en 1991 à 74 000 en 2011, mais pas le pourcentage. On peut comprendre les difficultés que rencontrent les nouveaux arrivants. Ils sont traités comme une commodité et souvent accueillis par des institutions et des agences et non par des familles et des groupes. Ils sont parmi nous, mais il n'existe pas de registre d'accueil, pas de données sur le parcours des familles, ni sur le flux d'émigration suivant cet accueil. On perd simplement leurs traces, selon ce qu'on a entendu ces dernières semaines au comité sénatorial des langues officielles. Alors ce texte de Jean-Pierre Dubé dans le journal L'Acadie se poursuit. On ne va pas dire aux immigrants quoi faire ni où aller, ils sont libres. Combien s'intègrent dans la francophonie hors Québec, nous l'ignorons. Des défis semblables, nous en vivons avec les couples exogames. Le parent non francophone n'est-il pas en quelque sorte un nouvel arrivant, demande l'auteur. Nos communautés sont des passoires, reconnaissons-le. L'immigration n'est pas une panacée. Devrait-elle demeurer une priorité du prochain plan d'action? C'est la question que pose l'auteur. Les histoires de succès sont toutefois nombreuses et souvent émouvante. L'immigration économique est réussie dans certaines régions grâce aux 120 millions investis par Ottawa. C'est l'Ontario qui gagne le plus à ce chapitre, favorisé notamment par la capacité des conseils scolaires francophones de séduire avec des opportunités uniques. La gestion scolaire serait la plus grande histoire de succès des communautés francophones avec la gouvernance, la qualité des infrastructures, une pédagogie appropriée et l'ouverture des politiques d'admission. Les écoles sont devenues l'outil par excellence pour l'intégration des nouveaux arrivants francophones en milieu minoritaire. C'est à cette réussite, continue Jean-Pierre Dubé, que les stratégies d'immigration devraient tout d'abord se greffer, en commençant par les jeunes enfants. Tout se joue avant d'entrer à l'école, comme l'a rappelé récemment le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser. Si l'Ontario réussissait à renforcer son réseau institutionnel avec un système de développement de la petite enfance, un modèle serait effectivement en place pour relancer la francophonie canadienne. C'est signé Jean-Pierre Dubé et cet article paraît dans l'Acadie Nouvelle, le journal des francophones du Nouveau-Brunswick, et c'est repris également dans le portail francopresse.ca. Autrement, je vous signale une lettre d'opinion publiée dans le journal Common Ground. Je ne sais pas si vous connaissez le journal Common Ground. C'est un gratuit hebdomadaire ou bimensuel, à préciser, qui est qu'on peut trouver dans les cafés, les salles d'attente, les lieux publics de Victoria et ailleurs en province. C'est un média britanno-colombien indépendant, alternatif, comme on dit parfois. Et il y a toujours des textes très très éclairants sur les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux. Personnellement, je trouve mon exemplaire de Common Ground au café Spiral dans Vic West. Il y a toujours une pile d'exemplaires Common Ground à l'arrière du café. C'est toujours une très bonne lecture. Et l'article que je vous signale aujourd'hui est signé par Barry Zwicker. En fait, c'est un article que l'auteur a acheminé au Parlement. C'est un article dans lequel l'auteur fait part d'inquiétudes sur la loi C-51, la fameuse loi de surveillance très étendue et très permissive pour les agences policières de notre pays. Alors, l'auteur s'inquiète des étranges priorités de la GRC. La GRC, dit-il en substance dans cet article, s'est tournée entièrement, quasi totalement, vers la prévention des actes terroristes. Et en cela, je veux dire, il faut... L'auteur ne dit pas qu'il faut se désintéresser de ces enjeux-là. Il dit seulement que la GRC a mis tous ses œufs dans le même panier, si vous voulez. La GRC ne s'intéresse qu'exclusivement désormais aux enjeux de terrorisme. Alors, ce sont les enjeux comme le crime organisé, la corruption... des responsables gouvernementaux, des fonctionnaires, des élus, d'autres crimes qui sont négligés, qui s'en trouvent négligés, et il s'appuie sur des faits, en fait, c'est appuyé solidement sur des faits. Il rapporte des articles qui sont parus dans le Globe and Mail qui faisaient état, preuve à l'appui, que la GRC s'intéresse de moins en moins aux crimes organisés, par exemple. Néglige certains pans de son mandat pour se tourner entièrement vers la surveillance. Dans cet article, il déplore aussi ce cas qui est arrivé ici en Colombie-Britannique, le cas de ce citoyen John Nuttall qui avait été accusé de complot terroriste alors que la GRC avait pratiquement tout scénarisé et avait été à la fois le scénariste, l'impresario, le réalisateur de ce complot. John Nuttall était un petit peu l'instrument de la GRC dans un complot qui avait été fabriqué a priori par la GRC elle-même. Et cela, c'est un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui l'a indiqué dans un jugement qui a été très important cette année, un jugement de la juge Catherine Bruce ici en Colombie-Britannique. Donc, l'auteur de cet article dans Common Ground, Barry Zwicker, s'inquiète des étranges priorités choisies par la GRC désormais, qui décide de ne se consacrer qu'à la lutte au terrorisme en laissant de côté des enjeux importants comme le crime organisé, par exemple, entre autres enjeux. Je vous recommande vivement donc la lecture de cet article qui est publié sur le site de Common Ground sur le web. On va faire une petite pause musicale, dernière pause de l'émission. On va se retrouver dans quelques minutes pour le mot de la fin. On écoute l'artiste Basile Houssain, une pièce qui s'intitule « En secret ». On se retrouve dans quelques minutes. l'artiste Basile Houssin avec la pièce En secret dans Le Débrief. Merci de nous écouter en direct à 16h57 ou encore en rediffusion dans la matinée du 1er décembre. Merci de nous avoir suivis dans cette heure d'information à l'antenne du 107,9 CILS à Victoria. Un petit mot sur la météo. On n'a aucune pluie, aucune précipitation dans le sud de l'île de Vancouver. Actuellement, c'est entièrement dégagé. La pluie sera de retour en matinée demain. C'est ce que nous annonce Environnement Canada sur le portail météo.gc.ca. Donc demain, 9 degrés en journée avec 30% de probabilité d'averse. Et la pluie reste avec nous dans les jours suivants. Ce sera pluvieux vendredi 2 décembre et durant le week-end des samedis et dimanche 3 et 4 décembre. Le mercure oscille entre 7 et 9 degrés. On aurait éventuellement un dégagement lundi. Ça n'est pas certain. Environnement Canada a changé un petit peu sa prévision pour lundi. C'est ce que je remarque dans la page que je viens de rafraîchir à l'instant. Donc, on nous annonce maintenant 5 degrés seulement dans la journée de lundi 5 décembre avec 60% de probabilité d'averse. Le soleil serait de retour hypothétiquement dans la journée du 6 décembre. Donc, voilà qui complète le débrief en ce 30 novembre. Encore merci de nous avoir suivis, restez à l'antenne et on se retrouve demain 1er décembre, même heure, même fréquence. Excellente soirée.
Anniversaire du Canada, le ministère du Patrimoine canadien vous invite à découvrir un personnage